Quand t'es obligé, ouais, comme acteur, de prouver que c'est toi.
Exactement.
Ça s'enflamme de même, ces internets. Hey, merci, Véro. Les filles, on se retrouve demain.
Absolument.
Merci beaucoup pour cet après-midi. Vous êtes dans Gravel en retour. Ça se termine maintenant. Je ferai pas les petits saluts habituels de Denis. Je vous laisse entre les mains de Marceau, qui s'en vient avec Marceau le soir dans les prochaines minutes, et son invité habituel, Marc Bellemare. Salut, là. À
bye
demain.
Bye. Keep on rolling,
baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
L'ex-ministre de la Justice, avocat, spécialiste IVAC, S-A-A-Q, j'en oublie-tu, Maître Bellemare?
Ben, je joue du piano aussi.
Vous jouez du piano. Un homme aux multiples, ouais, talents. Je pense qu'on peut le présenter comme ça. Maître Marc Bellemare, SAAC, IVAC, CNSST. C'est l'expert qu'il faut connaître. Ben,
oui.
Ben oui, c'est ça. J'ai
merci.
Eu...
Ben, pas dans tout quand même. Je connais mes limites et je les reconnais aussi.
Ouais. Maître Bellemare, c'est-tu compliqué des dossiers avec la CNSST? C'est-tu compliqué? Est-ce que la CNSST font des pieds et des mains pour ne pas donner leur dû à leur... À leur abonné, oui, finalement?
Oui, ils gèrent des budgets, puis ils regardent la colonne de chiffres, ils regardent la calculatrice avant de regarder le contenu du dossier. Quand ça va coûter cher, on les sent sur le break.
Ah oui.
Et regarde, Yannick, là. Moi, là, quand j'ai affaire au gouvernement, là, j'ai la nausée. Quand j'ai besoin de communiquer pour un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, l'impôt, n'importe quoi qui touche là, le 528,
ouais,
dans le 418, le 528 ou le 643, là, pour les gens de Montréal, c'est le 873, là, j'ai un malaise parce que je me dis, je rentre dans le monstre bureaucratique du Québec. Alors, si tu as un accident d'auto, un accident de travail,
ouais,
tu es victime d'un criminel, tu dois rentrer dans ce monstre-là, dans une partie du monstre, un démembrement du monstre. Alors, moi, j'ai le choix de faire affaire avec le gouvernement dans bien des dossiers. T'sais. Je peux décider, par exemple, si je veux aller en médecine privée ou si je veux envoyer mes enfants au privé à l'école, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, puis ça m'écœure de payer en plus des taxes que je paye puis des impôts que je paye. En même temps, j'ai un certain choix qui me permet d'éviter de passer par le gouvernement du Québec. Mais si je suis obligé de le faire parce que j'ai eu un accident de travail, un accident d'auto, mais là, j'ai pas le choix parce que c'est mon revenu, mon remplacement de revenu qui rentre en ligne de compte. Fait que les accidentés sont obligés de faire affaire avec ce monde-là. Ce que toi et moi, on n'est pas obligés de faire affaire, sauf peut-être pour un passeport au fédéral ou un permis de conduire au provincial. Mais avec l'histoire de Saclic, là, qui nous montre jusqu'à quel point ils sont tout croche au niveau de l'informatique, même à la Société de l'assurance automobile du Québec, ça montre que notre gouvernement, qui nous coûte quoi, 120 milliards par année, il n'est pas fonctionnel. On n'est pas efficace. On n'est pas fonctionnel au Québec dans notre gouvernement immense qui est dans toutes les facettes de notre vie pourtant.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont stressés. Il y a François qui m'écrivait un peu plus tôt ce matin, puis j'ai dit de m'écrire pour l'émission de ce soir. François est bien inquiet. François a 60 ans et il roule à environ 2 millions de kilomètres sur 47 000 heures au cours des 18 dernières années. Il mentionne qu'il est devenu sourd. C'est un camionneur. Il dit que la communication avec sa famille et avec le travail, c'est vraiment compliqué. Il demande toujours, toujours, toujours aux gens qui lui parlent de répéter. Et il y a plusieurs personnes qui lui disent « Essaye pas, François, quand même que tu recommandes à la CNESST, t'auras rien. Il y a juste les gens qui travaillent en usine qui peuvent se faire rembourser parce qu'ils sont devenus sourds. » Est-ce que c'est vrai, ça, Maître Bellemare? Parce qu'il semble, y avoir beaucoup d'inquiétudes.
Moi, c'est de la surdité professionnelle. C'est sûr que si tu as travaillé dans un moulin à papier pendant 40 ans, avec 150 ou 125 décibels 8 heures par jour, tu n'auras pas de misère avec la CNSST. C'est des secteurs qui sont reconnus comme causant une surdité professionnelle, qui est une maladie professionnelle. Mais J'ai des clients, moi, qui ont été acceptés, qui sont des professeurs d'éducation physique, qui ont été acceptés pour de la surdité professionnelle parce qu'ils passent leur semaine à entendre bing-bang dans des chambres écho.
Ouais.
Très écho dans des gymnases. Ils entendent des ballons, des enfants qui crient. Fait que t'as une zone de décibels qui dépasse 90 décibels. Et ils sont acceptés, pas tous, mais la plupart sont acceptés s'ils peuvent faire la preuve que pendant 25 ans, ils ont travaillé dans un gymnase écho avec du son, puis 50 jeunes qui jouent et qui courent après un ballon en même temps. Et j'ai aussi fait accepter des mécaniciens dans des aéroports qui étaient soumis à des bruits importants d'avions qui atterrissaient et qui décollaient, à l'aéroport de Québec notamment. Ce n'est pas des gars qui étaient dans des avions, ils faisaient de la mécanique d'avions et c'était dans des espaces fermés avec des murs de tôle qui sont des murs qui réverbèrent le son et qui font que le coup de marteau, tu l'entends quatre fois. Tu sais. Alors, tout ça est une question de preuve, mais non, ce n'est pas vrai que c'est pas possible de faire accepter une maladie professionnelle. Ça dépend du bruit. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu plus singulier, qui s'écarte un peu de ce qu'on est porté à comprendre d'une maladie professionnelle de surdité. Mais s'il est dans son troc et qu'il entend un bruit infernal à journée longue, ben oui, il peut réclamer, mais il faut qu'il fasse faut qu'il remplisse la paperasse. Puis moi, je peux l'aider, ce gars-là. S'il m'appelle, je vais lui dire comment faire.
Donc, le message va être passé parce que c'était sa question puis il semblait bien inquiet. Mais on dirait que l'information ne parvient pas jusqu'à nous. Tu sais, comment la CNESST fait sa publicité pour les gens qui considèrent avoir été lésés par leur travail puis qui ont développé, exemple, comme dans le cas de François, une surdité? Tu sais, François, il semble être un peu perdu dans tout ça puis il demande à des collègues, « Hey, je suis rendu sourd, pensez-vous que la CNESST peut m'aider? » Les collègues disent non. Je veux dire, il n'y a pas juste François qui n'est pas au courant de ça, il y en a plusieurs.
Oui, mais la CNESST ne fait pas de publicité pour les réclamants. Tu remarqueras ça. Jamais ils vont dire « réclamez pour la surdité si vous pensez qu'il y a un lien entre le travail ou vous étiez exposé à des doses sonores particulières. » Moi, je pense que la dose sonore particulière, c'est quand tu n'es pas capable de te parler, comme on le fait là, sans crier pour s'époumoner, pour se comprendre dans un milieu de travail. Quand tu n'es pas capable de parler, même fort, pour être compris, puis tu es obligé de crier, normalement, c'est une dose de son qui peut causer un problème à l'appareil auditif. Mais ça, la CNESST ne fait pas de pub. Ils font des pubs pour dire, l'année passée, on a eu tant de décès sur les chantiers. Faites attention de ne pas vous tuer sur les chantiers. Alors, comme si on avait besoin de savoir ça. T'sais. Ils nous donnent des pubs comme ça. Et ça donne strictement rien aux travailleurs, sauf qu'effectivement, ça peut amener un petit peu plus de vigilance. C'est une façon de limiter les coûts. C'est la même chose avec la SAAC. La SAAC va faire une publicité pour dire « ralentissez, allez pas trop vite ». Pourquoi? Pour qu'il y ait moins d'accidents, pour que ça coûte moins cher à l'État. Mais ils ne s'adresseront jamais aux victimes qui sont déjà dans le système et qui ont besoin de connaître les délais de contestation, les délais de réclamation, comment fonctionner. Ça, ils ne font pas. Pourquoi? Parce que s'ils le font, ça va coûter plus cher. Alors, ils font toujours des pubs qui sont destinées à limiter les coûts. C'est ça qu'ils font. Alors, le travailleur qui est déjà dans le système ou la victime de la route qui est déjà dans le système, là, elle est complètement laissée à lui-même. Et moi, au bureau, ce que je fais depuis 46 ans, c'est répondre à des travailleurs, des victimes qui ne savent pas comment le système fonctionne. Et quand ils appellent le fonctionnaire de la SAC ou de la CNESST pour avoir de l'information, bien, ils n'ont pas le temps, ils sont impatients. Puis bien souvent, ils vont dire, prenez-vous un avocat ou appelez votre avocat. Alors, bien, l'avocat, il faut que tu le payes. Alors que le fonctionnaire, il est déjà payé, mais lui, il n'est pas obligé de répondre, puis il prend son temps, puis il n'est pas patient, puis il n'a pas le goût de donner de l'information. Vous savez, moi, je suis là pour administrer une loi, monsieur, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. C'est souvent ce que les travailleurs vont se faire dire, malheureusement.
OK. On n'a pas encore parlé du Canadien. Belle performance du Canadien samedi. Cole Caulfield, 2 buts. Suzuki, 1 but. Le Canadien qui a gagné 6-2. Et que dire la performance d'Alexander Ovechkin, qui est plus capable d'avancer, mais qui la met encore dedans sans aucun problème avec 2 buts.
Ben oui, c'est ça. Il est rendu à combien, là?
Alexander Ovechkin, il a ralenti par rapport...
900, 890, 900?
Il a ralenti par rapport à l'an passé. Mais,
il y a 24 buts, je pense, cette année. Hein?
Je considère que c'est encore un privilège de voir ce talent-là évoluer en 2026. Il est rendu à 50 points, 24 buts, 26 passes.
Quand même. Puis il y a combien de buts au total dans sa vie? Là?
Sa carrière, en 1553 matchs, il en a 921.
921 buts, mais tu sais, c'est sûr que son idéal, je suis sûr que ça le fait rêver, là, c'est d'atteindre 1000 buts, tu sais.
C'est clair. Wayne Gretzky avait combien, ça?
Je pense que Gordie Howe, il s'était rendu à 812, ça se peut-tu?
Ouais, là, on va regarder.
Après ça, c'était battu par Gretzky, qui en avait 880.
Gretzky en a 894.
894?
Ouais.
Mais je sais que tu l'aimes beaucoup, Ovechkin. Je sais que je vais te faire de la peine dans ce que je veux dire là. Mais moi, j'ai vu jouer Wayne Gretzky, il avait 16 ans. Il jouait dans le temps avec les Oilers d'Edmonton dans l'AMH. Parce que tu sais que l'AMH, dans le temps des Nordiques, des premiers Nordiques en 72, il y avait aussi les Oilers d'Edmonton et Gretzky avait 16 ans. Et moi, je l'ai vu jouer en 77-78 au Colisée de Québec contre les Nordiques dans l'AMH avant que ces deux équipes-là adhèrent à la Ligue nationale, parce que 6 équipes de l'AMH qui se sont rendues dans la Ligue nationale. Et je vais te dire une affaire, à 16 ans, là, c'était extraordinaire de le voir jouer. C'est un peu comme quand Crosby venait jouer ici contre les Remparts à partir de l'Océanique, parce qu'il
ouais.
C'est des ados, tu sais. Mais Gretzky avait ce côté complet, lancé, déjoué, top net, entre les jambières, déjoué, les poignets, les mains. Il y avait ce côté complet, un peu comme Mario Lemieux. Je pense que c'est quand même des joueurs extraordinaires. Ovechkin, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je trouve que dans ce lot, il est super dangereux parce qu'il a un super lancé, mais sur les 900 quelques buts qu'il a fait à date, là, il y en a combien qui a compté de la même manière en tirant à l'aile gauche?
Ah, vous avez raison. C'est juste que Ovechkin, c'est un joueur qui...
Il y a 90% de ses buts qui a compté de même.
Mais Ovechkin, c'est un joueur qui est complet. Là. Il frappe fort. C'est un dur. Il y a une protection de rondelle. Il n'y a personne qui est sur la glace pour le défendre. Il est capable de se défendre lui-même. Il est spectaculaire. Puis là, il ne faut pas se fier à ces dernières années où il a grandement ralenti. Puis le danger des comparaisons entre, exemple, je ne sais pas moi, Mario Lemieux puis Wayne Gretzky, c'est que Gretzky était bien entouré. Il y avait des gens qui étaient là pour le défendre, puis il y avait des gens qui étaient là pour lui passer la puck ou encore recevoir les rondelles puis la mettre dedans, tandis que Lemieux a été longtemps tout seul à Pittsburgh. Là. Il n'a jamais été entouré comme Wayne Gretzky. Puis là, quand on compare les époques, l'époque de Wayne Gretzky, les gardiens gaulaient de bout, monsieur Bellemare, là, tandis que là, c'était, ouais. Regarde en 2025-2026, les gardiens de but sont à genoux, sont immenses, leur équipement est immense. Il n'y a pas de place pour faire rentrer la rondelle dans 95% des cas, c'est pas mal plus complexe aujourd'hui. Donc, il y a un danger de comparer les époques. Je pense qu'on est pogné dans l'ancien temps, Maître Bellemare.
On peut pas faire ça parce que, tu sais, Maurice Richard, 544 buts en carrière. Tu sais, le premier compteur de 50 buts. Un gars qui faisait du déménagement le matin puis qui allait jouer au Forum le soir. T'sais. Mais Maurice Richard, c'est peut-être de tous les joueurs de hockey de l'histoire du hockey professionnel, c'est peut-être le meilleur de la gang parce qu'il a évolué dans ce contexte-là avec des patins tout croche puis des hockey tout croche. Il n'y avait même pas de lame de hockey courbée. T'sais. Il n'y avait même pas de lame courbée. Mais moi, je pense que ça se mesure à l'effort puis à la détermination. L'effort, c'est quoi l'effort cardio? Qui donnait, l'effort mental qu'il donnait, puis on ne pourra jamais le mesurer. Comme tu le sais, il n'y a pas de... Mais moi, j'ai un fils qui s'amuse à faire des... Parce que lui, il a joué au hockey, il a 25 ans aujourd'hui. Mais il s'amuse à faire des comparaisons, puis il dit, papa, il dit, dans ce temps-là, Maurice Richard, il déménageait des frigos, puis il allait jouer au hockey le soir. C'est pas sérieux. Mais je comprends, mais comment tu peux dire ça?
C'est ça, c'était ça pour l'époque, tu sais.
Quand on construit le Forum, tu sais, il y avait du monde pour admirer ses coups. Il était le meilleur de sa gang à l'époque.
Quand on regarde des vieilles bandes vidéo, on a l'impression que Maurice Richard, du temps où il évoluait, c'est à peu près le calibre des ligues de garage, bon, aujourd'hui. Donc, on ne peut pas comparer ça à aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Le hockey étant ce qu'il était à l'époque, Maurice Richard était parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale.
Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention de ne pas mépriser les anciens.
Exact.
Si tu regardes même les Jeux olympiques, là, tu vas voir Nancy Greene au ski, là, je veux dire, tu compares aujourd'hui à ce qu'on voit les athlètes aujourd'hui, ben, c'est incomparable, mais c'est sûr que... Le cinéma, c'est pareil, la télévision, c'est pareil, dans n'importe quoi, c'est pareil, notre habillement, c'est pareil, nos coupes de cheveux, c'est pareil. Alors, on change, mais c'est pas dit que toute comparaison étant possible par ailleurs, c'est pas dit que le mérite et l'effort que le mérite est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a 40 ou 50 ans. Puis dans 40 ans d'ici, nos petits-petits-petits-enfants vont regarder les joueurs d'aujourd'hui puis ils vont peut-être avoir le même réflexe en disant, ben voyons donc, tu sais, Ovechkin, franchement, t'as-tu vu ça? Ils vont regarder des vieilles vidéos, tu sais. Alors qu'eux autres, ils vont avoir des joueurs qui vont avoir, je sais pas, évolué d'une autre façon, vont avoir des nouveaux patins. Les patinoires vont peut-être être plus larges. Peut-être que les buts vont changer, peut-être que les lignes vont changer, peut-être qu'il va y avoir moins d'arbitres sur la glace pour obstruer la vue des joueurs. Incidemment, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a quatre bonhommes avec des chandails rayés sur la glace. Tu comprends tout ça, toi?
Ben, en fait, c'est deux arbitres, puis on a deux juges de ligne, c'est ça?
Oui. Alors moi, les juges de ligne, je les mettrais dans les estrades pour surveiller leur ligne bleue. Ils n'ont pas d'affaires sur la glace.
Ah, vous trouvez qu'il y a trop de monde sur la glace?
Ou je les mettrais en haut sur la tribune de la presse, là, avec un petit manche, avec un bouton là, pour siffler, là, si jamais il y a un hors-jeu. Ils verraient les hors-jeux beaucoup mieux que s'ils sont sur la glace, à toujours avoir peur de se faire entrer dedans. Puis il y aurait un arbitre, un seul, que je le mettrais dans un panier en dessous du tableau indicateur. Alors, on aurait quatre bonhommes de moins sur la glace, puis on aurait plus d'espace pour les joueurs, puis on aurait du meilleur jeu. Je ne comprends pas ça qu'en 2026, il y ait encore cinq joueurs de chaque côté, un gardien de chaque côté, puis quatre bonhommes qui sont quasiment une équipe de hockey à eux-mêmes.
Ouais.
À quatre,
ben,
ça arrive, des petites glaces de 80 par 200.
Vous parlez peut-être du hockey du futur, Maître Bellemare. Je regardais...
Ben, il faut les sortir de la glace.
je
comprends pas ça.
En fin de semaine, je regardais un poste américain. Puis, c'est du hockey, mais du hockey balle, un peu comme du deck hockey là, qu'on connaît au Québec. Mais la surface derrière le gardien est courbée, comme si c'était un genre de truc de rollerblade. Pas rollerblade, mais les planches à roulettes. Là.
Ouais.
Bon, ben derrière le gardien de but, c'est courbé. Ce qui fait en sorte que les joueurs peuvent flipper dans les airs où la balle, si on l'envoie à côté du gardien de but, donc à côté du but, elle va revenir dans le jeu, elle va revenir dans le milieu du jeu. Je me demande à quel point ce ne sera pas quelque chose qui va se développer sur 10, sur 15, sur 20 ans. Mais c'est aux États-Unis, ça se joue beaucoup sur le bord des plages. Puis c'est une nouvelle façon de voir le hockey. C'est plus une surface plane, là. C'est vraiment... Mm-hmm. Plat avec des curves chaque côté, donc derrière le but. Puis les joueurs peuvent flipper à l'envers. C'est capoté raide.
Oui, mais je reviens à mon histoire d'arbitre sur la glace. écoute bien.
Il ne veut pas décrocher.
Non. As-tu remarqué que quand il y a un hors-jeu, OK, il y a un but qui est compté, qu'est-ce qu'il fait Martin Saint-Louis avec son adjoint? Il regarde sur son petit écran, puis il regarde s'il n'y a pas un hors-jeu. Sur un écran. Et assez souvent, il va demander une review, puis il va avoir raison parce que toi puis moi, on regarde la TV, puis on voit que le joueur passe en avant de la puck, puis il rentre dans la zone avant que l'autre joueur, porteur de la rondelle. Comment ça se fait qu'un juge de ligne professionnel qui a 40 ans d'expérience là-dedans, il n'a pas vu ça, le hors-jeu. Il est sur la glace. Ils sont deux, Yannick, qui n'ont pas vu ça.
À la vitesse à laquelle...
Il regarde son petit écran à TV, puis il va voir qu'il y a un hors-jeu.
À la vitesse à laquelle ça va, Maître Bellemare, ça ne doit pas être évident là, de juger. Ça doit être un peu stressant. Aux Olympiques, on a vu, à un moment donné, on était persuadé que c'était hors-jeu. C'était sur la pointe d'une aiguille qu'on a jugé que le jeu y était bon puis que c'était pas un hors-jeu parce qu'on n'était pas capable de revirer la décision. Mais là où moi je vous rejoins, c'est qu'on peut améliorer ce hockey-là. Effectivement, on peut mettre des juges de ligne qui vont être à distance avec une rondelle qui est micro-pucée. Puis on le sait si la rondelle franchit la ligne ou pas. Là,
que les caméras et les écrans vont nous donner une meilleure vue du hors-jeu que le juge de ligne qui est sur la glace.
Exact.
Il est dessus de la glace, puis il ne voit pas ça parce que ça va trop vite. Il a peur pour sa sécurité. Les joueurs se promènent autour de lui. Il essaie de trouver sa niche pour ne pas déranger le jeu. Le juge de but, il est où? Il est sur la glace, le juge de but? Il y a un juge de but aussi, derrière chaque filet.
Il est derrière le filet, oui.
Ben, il n'est pas sur la glace. Puis c'est lui qui va dire si le but est bon ou pas. C'est lui qui va allumer le numéro.
C'est ça. Avec une micro-puce, lui aussi pourrait être remplacé. On vient de changer le monde du hockey au complet, M. Belmont. C'est bien ça.
Ouais,
c'est
bien. On va faire breveter cette idée. 50-50, Yannick.
Puis... M. Belmont, ça a commencé à brasser en fin de semaine. Trump qui évoque des menaces intolérables là, pour justifier l'intervention américaine. Ce qu'on me dit sur le terrain pour avoir jasé avec une Iranienne ce matin, c'est que les gens dans les rues sont très heureux, à peu près à 85% qui a eu une intervention des États-Unis et d'Israël là, sur l'Iran. Le guide suprême Ali Khamenei qui a été tué dans l'attaque. On parle d'une quarantaine de dirigeants iraniens aussi qui ont péri dans cette attaque-là. Et on nous dit que la République islamique veut venger la mort et riposte contre des bases militaires. Plusieurs pays qui ont été ciblés par l'Iran. 7 pays depuis le début du conflit samedi. Et on promet de se venger. Il y a le Hezbollah qui est la branche armée, une des branches armées de l'Iran qui a décidé d'attaquer des positions aussi au nord d'Israël. Donc, la guerre est bel et bien repartie de plus belle en espérant qu'il n'y ait pas une escalade du conflit parce que très souvent, beaucoup de gens qui décident à rien se font tuer et très peu de gens qui décident se font tuer.
Oui, c'est ça. Puis, j'entends pas beaucoup de gens, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Iraniens hors Iran, hein, parce que d'après moi, il y a une différence entre les Iraniens qui vivent ici. Les Iraniens qui sont là-bas. Les Iraniens qui sont là-bas, on ne les connaît pas. Ils ne parlent pas notre langue, on ne sait pas c'est qui. Mais les Iraniens qui sont ici, ils sont en général assez contents que le régime ait été attaqué.
C'est ce que la dame me dit ce matin. Ouais.
Oui, c'est ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est les gens qui sont sur place. Parce que les Américains sont tellement détestés au Moyen-Orient, sauf en Israël, pendant les pays arabes, que je pense que le fait que ce soit les Américains qui aient attaqué, même pour des gens qui étaient contre Khamenei avec sa gang, le maître suprême, le gouvernement de la place d'Iran, les Iraniens sur place, même qui souhaitent un changement, je me demande si le fait que ce soit les Américains, donc un pays étranger qui attaque, si ça ne rendra pas le régime plus sympathique ou si ça ne fera pas en sorte qu'une majorité d'Iraniens vont s'opposer à cette intervention-là parce qu'elle est extérieure à leur pays. C'est ça qui m'agace, c'est ça qui me dérange, parce que les Américains sont tellement détestés, ça fait longtemps, depuis 1979, que c'est comme ça. Hein? Moi, je me souviens quand l'ambassade d'Iran a été envahie, ça a coûté le pouvoir à Jimmy Carter aux États-Unis parce qu'il y a une prise d'otage qui était interminable et qui a présenté le gouvernement américain, le président américain, comme étant un faible, qui laissait les Iraniens envahir l'ambassade des États-Unis. Ça fait longtemps que ça mijote, mais les Américains ne sont pas aimés en Iran. Alors là, oui, c'est intéressant de voir que la tête dirigeante du gouvernement a quitté, a été assassinée. Mais la suite de tout ça, je pense que c'est inquiétant. Puis je ne suis pas sûr, moi, que les Américains vont être capables de provoquer un changement de régime durable, encore moins démocratique dans ce pays-là.
Oui, à savoir quelle est la raison, justement, du fait que Donald Trump avec Israël ont décidé de rentrer. Tu sais, il y en a qui vont dire que c'est possiblement pour mettre la main sur le pétrole. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est possiblement pour mettre fin à ce régime de terreur-là. Israël en avait marre de l'Iran parce que l'Iran donne beaucoup d'argent à des regroupements qui sont considérés comme des terroristes. On essaie de faire le ménage, mais regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Là. Ils ont dit « on s'en va en Irak pour les armes de destruction massive ». Finalement, il n'y avait aucune arme de destruction massive, puis on a mis la main sur Saddam Hussein et on l'a tué. Et là, comme dans ces endroits-là, c'est une poudrière, puis les gens attendaient juste ça, que Saddam Hussein soit tué. C'était le roi des fous. Il faisait peur à tout le monde, donc tout le monde se tenait tranquille. On a tué le roi des fous, donc les fous sont sortis puis ont commencé à amener le bordel dans ce secteur-là. J'ose croire que ça se fera pas du côté de l'Iran, mais c'est inquiétant. Puis je lisais ce matin que l'Iran, son système actuel avait été bâti par cet être suprême-là, là, qu'on considérait comme suprême même à 87 ans. Et c'est un regroupement qui est fait pour être résilient. Donc s'il y a une tête qui tombe, bien, les autres peuvent prendre assez facilement le pouvoir. Ça ne changera absolument à rien. À 86 ans, il ne devait plus gérer grand-chose, Maître Bellemare. Je ne vais pas faire d'âgisme, là, mais... Il devait plus être le bonhomme carnaval qu'autre chose là, dans les décisions.
Oui, parce qu'Al-Qaïda et Daesh ont été des structures terroristes terribles qui ont pris naissance justement dans des interventions extérieures dans leur pays. Et peut-être qu'en Iran, qui est quand même un pays où le terrorisme face à l'Occident est devenu une vertu, et face à Israël, moi, j'ai bien peur qu'on ait des suites difficiles, mais en même temps, tu dis, Trump décide d'attaquer l'Iran, il n'y a pas grand monde qui va avoir pitié de ça, mais les suites, ça devient assez incontrôlable, mais c'est vrai que l'Iran constitue une menace pour la sécurité internationale, c'est vrai qu'il faut détruire l'armement iranien pour éviter qu'il se procure la bombe atomique puis qu'il se mette à tirer sur tout le monde, là. C'est vrai que c'est un réel danger, mais en même temps, est-ce qu'on a annihilé ce danger-là à long terme, à moyen terme? Probablement pas. Puis tu sais, on a souvent l'impression qu'on crée des martyrs un peu partout, mais ça peut en être un, là, Amini. Là. Amini peut être considéré comme un martyr, puis stimulé. Après Gaza et tout ça, je pense que il risque d'y avoir des réactions islamiques.
Avez-vous l'impression que Trump travaille sur son leg actuellement pour quand il partira, il pourra dire ben, j'ai mis fin à deux dictateurs sur Terre, celui du Venezuela et
oui.
Celui
de l'Iran. Je pense que pour lui, à l'âge qu'il a, je parle de l'âge chronologique et l'âge politique, parce que l'âge politique, c'est important. Il est quand même dans sa deuxième année d'un mandat de 4 ans. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on dise de lui dans 30, 40, 50 ans que c'est un président qui n'avait pas froid aux yeux, qui n'attendait pas après l'ONU tatillonne avant d'intervenir, puis qui a mis fin à plusieurs régimes dictatoriaux sur la Terre. Puis j'ai l'impression que c'est pas fini. C'est sûr qu'il ne s'attaquera pas à des puissances comme la Russie. Il va s'attaquer à des pays un petit peu plus petits. Mais en même temps, c'est sûr que sa détermination... Le fait de passer aux armes sans consulter le Congrès, comme dans ce cas-ci, sans consulter les partenaires du droit international, sans consulter l'ONU, ça montre que finalement, il veut, lui, être le boss sur Terre, puis le boss de l'Occident, puis faire en sorte que certaines dictatures soient minimalement ébranlées. Il y a des Américains qui aiment ça. Dans quelle mesure ça va plaire à sa base? J'écoutais hier des reportages qui disaient que la base républicaine avait bien aimé les engagements de Trump à l'effet qu'il n'allait pas s'impliquer dans toutes sortes de conflits internationaux. Et là, tu as le Venezuela, puis là, tu as l'Iran, et là, tu as l'Ukraine, puis tu as Gaza, puis etc. Fait qu'il s'implique beaucoup dans des affaires internationales, mais en même temps, il le fait de façon agressive, ce qui plaît à la frange républicaine aux États-Unis. Alors, moi, je pense, un dans l'autre, que ce qui se passe en Iran actuellement, c'est bon pour Trump. Moi, à mon avis, ça va rapporter au plan politique. Est-ce que ça va rapporter assez pour qu'il puisse aller chercher des bons résultats aux élections de mi-mandat? Je ne sais pas. Mais je pense que les Américains, de façon générale, apprécient le fait que leur président prenne des initiatives à l'encontre d'un pays pour peu qu'il soit convaincu que ce pays-là constitue une menace pour la sécurité internationale. C'est une forme de leadership.
Hâte de voir la suite. Il y a des avions américains qui ont été descendus dans les dernières heures, aux alentours de peut-être 10 heures ce matin que cette nouvelle-là est tombée. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est des tirs amis.
J'avais peut-être l'intention de parler aujourd'hui de la question des gens qui sont à l'extérieur, parce que hier, j'écoutais à LCN, puis il y avait une fille qui était à Dubaï, puis qui disait, moi, je suis ici, là, puis je peux même pas aller à la piscine parce que j'entends péter au-dessus de ma tête, puis là, ils nous ont demandé de rentrer à l'hôtel. Puis je me suis posé la question, quelle est l'obligation du Canada face à cette femme-là? Est-ce que le Canada est obligé de rapatrier à ses frais cette femme-là parce qu'elle est dans un pays menacé, parce que Dubaï a été évidemment l'objet de représailles de la part du gouvernement iranien hier. Le Koweït également, le Hezbollah, les gens qui sont pris au Liban actuellement avec le Hezbollah qui s'énerve un peu, est-ce qu'on peut les rapatrier? Est-ce que le gouvernement a des obligations? Je suis tombé sur la charte des services consulaires du Canada, pas très connue. Et c'est un document qui a été revisé en décembre 2025, donc qui est très récent. Et dans le fond, le gouvernement n'a pas d'obligation. T'sais. Ça veut dire, occupe-toi de tes affaires avant de partir. Hein? Puis ce qu'on dit dans le document, là, c'est l'aide apportée aux Canadiens à l'étranger. De plus en plus de Canadiens explorent des endroits éloignés de la planète, font du bénévolat au travail à l'étranger, participent à des échanges d'étudiants ou passent leur retraite dans les pays chauds. Alors, ce que ça veut dire, c'est nous pouvons venir en aide aux citoyens canadiens, mais si vous possédez une double nationalité, ça va aider. Mais la décision de voyager ne relève que de vous. Et il vous incombe par conséquent de veiller à votre sécurité personnelle à l'étranger. Alors, dans le fond, le gouvernement n'a aucune obligation d'aller te chercher, puis de t'envoyer un avion ou de t'acheter un billet, même si le pays dans lequel tu te trouves qui est pacifique au départ, devient un pays en guerre ou un pays menacé ou que la sécurité des citoyens est compromise, même la sécurité des citoyens canadiens. Fait que le gouvernement n'a aucune obligation. Ils disent dans le document, trouve-toi une assurance voyage, voyage avec des gens compétents, fais preuve de débrouillardise, c'est écrit tel quel. Alors, ils vont te donner un passeport si tu te fais voler ton passeport. Ils vont te donner un passeport de façon plus rapide. Ils vont te donner une liste de noms d'avocats si jamais tu es mal pris puis tu es accusé de quelque chose. Ils vont te donner une liste de médecins. Mais le gouvernement canadien n'a pas d'obligation en ce moment face à des citoyens canadiens qui seraient en voyage dans des pays menacés. Puis un peu plus moins, là, Dubaï, c'est peut-être un peu différent parce que c'est très exotique, là. Mais s'il y a des gens qui ont voyagé en Iran les dernières semaines pour aller se promener dans les montagnes, là, ou au Liban ou au Koweït, là, c'est peut-être pas très prudent. Là.
Mais c'est probablement
pas dire que c'est probablement péter nécessairement, mais il y a quand même un certain risque.
Mais c'est probablement des Iraniens qui ont leur citoyenneté canadienne qui retournent en Iran une fois de temps en temps. Puis pour ce qui est des gens qui voyagent à travers le monde, je pense que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une alerte générale dans le pays, le gouvernement ne vous viendra pas en aide rapidement. Là. Là, à Dubaï, ils sont quand même en sécurité. Oui, ça brasse dans le ciel, mais ils sont quand même... En sécurité. Moi, j'ai toujours tendance, Maître Bellemare, à ne pas comprendre pourquoi les gens attendent de l'aide avant de s'aider eux-mêmes.
Ouais.
Nous, on était pognés dans un aéroport au Mexique, puis il y avait des tempêtes de neige à Québec. Là, ça a été retardé de 4 jours, Maître Bellemare. Puis à chaque jour, on nous disait « L'avion s'en vient, inquiétez-vous pas. » Mais à chaque jour, on devait se présenter à l'aéroport à une heure et une date X. Puis l'avion n'était pas là. Puis on retournait à l'hôtel tout simplement. Puis on avait une nuitée gratuite qui était payée à l'aéroport. Mais à un moment donné, après 4 jours, les gens étaient fâchés. Là. Les gens de Montréal, les gens de Québec, ils étaient écœurés d'attendre leur avion. Puis la chicane était pognée dans l'aéroport. La garde nationale était là. Puis à un moment donné, ben il y a un petit nain de la garde nationale qui a dit « Tranquille, là! » en montant sa mitraillette dans les airs. J'ai regardé ma conjointe de l'époque, là, puis j'ai dit « Si demain on part pas, je me loue un char pour remonter au Québec. » C'est pas vrai que moi, je vais rester dans une situation de conflit comme ça. Des gens qui font juste se lever la main en disant « Hey, je suis là, venez m'aider plutôt que de commencer à s'aider eux-mêmes. » J'ai toujours de la misère avec ça. Mais on dirait que notre société est rendue habituée. T'sais. Notre société est rendue habituée à demander de l'aide plutôt que s'aider eux-mêmes.
Quand ça va pas, on demande l'aide du gouvernement.
Mais Bellemare,
on voyage dans des pays à risque.
Où ça a pété à Puerto Vallarta, des gens qui appelaient leur agente de voyage pour se plaindre que la compagnie aérienne partait pas vers Puerto Vallarta parce que eux autres, ils voulaient leur semaine de voyage, puis ça leur dérangeait pas que ça se tire dans les rues entre méchants.
Alors, quand la compagnie annule des vols pour des raisons de sécurité, on chiale.
Ouais.
Parce qu'on veut prendre l'avion, puis on a prévu nos vacances, puis on est bien déçus, puis c'est vrai que c'est plate, mais en même temps, moi, j'ai voyagé dans l'ouest du Mexique. J'ai voyagé dans l'est du Mexique, Cancun notamment, le golfe du Mexique, que M. Trump appelle le golfe des Amériques. ou le côté Pacifique, mais j'ai toujours su que du côté Pacifique, il y avait davantage de risques parce qu'il y a plus de gangs, il y a plus de trafic, il y a plus de violence du côté ouest. Alors, la dernière fois que je suis allé au Mexique, je suis allé du côté est, précisément à cause de ça. Alors, prendre l'information, c'est pas mauvais non plus. C'est sûr que c'est toujours tannant de voir des annulations, mais c'est pas de la faute du gouvernement, puis c'est pas nécessairement de la faute du transporteur. Puis soyez assurés que si le transporteur aérien décide de ne pas effectuer le vol comme prévu à destination où il y a des risques, bien, c'est pas des imbéciles non plus. Là. Eux autres, ils débarquent avec 300-400 personnes dans l'avion, puis ils ont décidé d'annuler le vol. Pour que les compagnies aériennes annulent des vols, il faut qu'il y ait véritablement un risque important.
Mais c'est-tu parce que les gens veulent sauver quelques centaines de dollars? Parce que je pense à cette citoyenne-là là, qui est à Dubaï. Là. Bon, elle veut se faire rapatrier au Canada. Et Simonac, prends-toi un avion cher, puis va-t'en en France. Là, puis de la France, tu prendras un avion, tu t'en viendras vers Montréal là, s'il n'y a pas de vol direct. Là.
Ou bien donc, t'attends que ça passe. Ça peut arriver. Ça peut arriver que ça prenne du temps. Parce que, tu sais, dans le temps de la COVID, il y a des gens qui sont restés en 2020, il y a des gens qui sont restés pendant plusieurs semaines, même un mois à l'extérieur parce qu'il n'y avait plus de vol. Ils étaient pris là-bas. Les gens qui étaient pris dans la COVID en Italie, là, où il y a eu, je pense, le deuxième plus haut taux de mortalité pendant la COVID, là, il y a des gens qui sont restés là pendant plusieurs semaines parce que ça ne partait pas à cause des problèmes sanitaires. C'est choquant. Moi, ça m'est arrivé déjà d'avoir des vols annulés ou des vols déplacés. Tu sais, on décide d'annuler tel vol, puis on voulait partir le lendemain à la place. C'est bien tannant, puis c'est plate, puis on peut se permettre de crier après les compagnies aériennes, mais c'est certainement pas la job du gouvernement que de te payer un vol ou d'aller te chercher chez, là-bas parce que ça a commencé à péter, tu sais.
Leur agence Accès Croisières et Voyages tente d'obtenir des indications d'Ottawa afin de sécuriser les voyageurs et possiblement organiser leur rapatriement, mais ce but a des réponses automatiques et formatées, ce qui contribue à augmenter leur anxiété bien présente en raison du conflit qui sévit au Moyen-Orient. Les aéroports à Dubaï, ils fonctionnent. Embarque dans l'avion puis amène-toi, là.
Oui, l'aéroport de Dubaï a été bombardé. Hein. Je sais qu'il y avait des images hier aux nouvelles là-dessus. C'est 95 millions de passagers annuellement à l'aéroport de Dubaï. Je pense qu'il y en a à peu près 90 millions là-dedans qui sont des vols de transit, donc ouais. Des gens qui passent par là pour aller ailleurs.
Exact.
Ben, c'est sûr que c'est certainement pas une bonne affaire, mais en même temps, il y a des aéroports à Paris qui ont déjà été victimes de terrorisme. Fort Lauderdale, il y a 4-5 ans, il y a eu du terrorisme aussi. Alors, bon.
J'ai plus l'impression.
Ce sont des prises de choix pour les terroristes. Ils aiment ça s'amuser avec les aéroports.
J'ai plus l'impression que c'est pour une question de remboursement qu'une question de vie ou de mort. Là. Eux autres, ils veulent être rapatriés, mais ils ne veulent pas payer. Puis ils veulent être remboursés pour le voyage qu'ils n'auront pas eu comme ils pensaient, j'imagine. La déception.
Mais, c'est sûr que ce que ça veut dire, 2026. C'est une année où on va avoir pris quelques leçons, parce que sur la Terre, il y a des zones conflictuelles, il y a des virus, il y a des ouragans, il y a des tempêtes, il y a des terroristes, il y a du trafic de drogue, il y a des groupes terroristes, puis si tu t'en vas au Moyen-Orient, tu risques d'avoir peut-être quelques perturbations. Ça se peut que ça se passe bien, mais tu prends des risques. Et même dans les endroits, tu sais, Cuba, cette année, ça ne marche pas. L'ouest du Mexique, il y a eu des turbulences. Moyen-Orient, des turbulences. Les États-Unis, avec Trump, il n'y a rien de sûr. Tout est compliqué. Alors, c'est vrai que ça devient compliqué puis insécurisant de voyager aujourd'hui, mais en même temps, si tu choisis d'aller au Moyen-Orient, disons qu'avec ce qui se passe en Israël, l'Iran, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était prévisible, mais c'est quand même des zones où le niveau de sécurité est beaucoup plus bas que Rimouski puis Robertval, disons.
Maître Bellemare, il y a un dossier dans l'actualité qui est arrivé ce matin, puis je voulais vous entretenir sur ce dossier-là. On parle d'un résident de Lanaudière qui a été condamné à 18 mois de prison pour avoir tué en VTT une policière qui va sortir au sixième de sa peine. C'est la Commission québécoise de libération conditionnelle qui a vanté ses progrès en,
en détention. C'est parce qu'il a fait juste 18 mois. Là. En fait, il était condamné à 18 mois. Il a fait juste le sixième de sa peine. Il a tué quelqu'un alors qu'il était sous au volant de son VTT. Là.
Inacceptable.
Marc-Antoine Inacceptable. La jeunesse, 32 ans, qui a obtenu sa sortie préparatoire.
Scandalisé. Moi aussi, j'ai vu ça ce matin. Je suis scandalisé. Un juge de la Cour du Québec a condamné cet individu-là qui avait 0.10, 0.11 d'alcool dans le sang, donc il avait un taux d'alcoolémie supérieur au 0.08. Y a-t-il quelqu'un sur la planète qui ne sait pas qu'au Québec, au Canada, c'est 0.08 le niveau d'alcool? Alors lui, il est dans son camping, il se promène en VTT.
Exact.
Il y a la petite policière, mais il faut quand même être juste. Il faut préciser que oui, c'est une jeune policière qui venait d'adhérer aux effectifs de la Sûreté du Québec. Mais ce n'était pas en sa qualité de policière qu'elle était là.
Exact.
Elle était là comme citoyenne, elle allait visiter un ami, mais elle venait, c'était une policière de profession. Et là, il y a une courbe pas trop prononcée, semble-t-il. Il manque la courbe. Il y a une relation avec l'alcool. Donc, alcool causant la mort. Le juge, il donne 18 mois. C'est quand même pas exagéré parce qu'il y a quand même eu une femme qui est décédée. Le juge, il donne 18 mois en disant, y a-tu quelqu'un qui ne sait pas que l'alcool au volant, c'est criminel? Y a-tu quelqu'un qui ne sait pas que conduire en état d'ébriété, c'est illégal? Alors, tu n'as pas d'excuse, mon homme. 18 mois. Moi, je trouve ça très conservateur. Je trouve que c'est un minimum compte tenu des conséquences graves que ça a eues et du fait qu'effectivement, n'importe quel individu est censé savoir que l'alcool, quand tu prends de l'alcool, tu ne conduis pas des véhicules moteurs. Et là, la commission des libérations conditionnelles décide qu'il a compris, qu'il y a des remords, qu'il y a des regrets, puis qu'après 3 mois, il laisse sortir. Alors, ma première observation, c'est comment tu fais pour évaluer raisonnablement le niveau de remords et le niveau de compréhension d'un individu sur un délai aussi court, en 3 mois.
Ben, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une professionnelle qui s'est penchée sur son dossier et elle a dit, dans les papiers qu'elle a remis à la Commission québécoise des libérations conditionnelles, que le fait qu'il aura à vivre avec les conséquences de son geste pour le reste de sa vie a un effet encore plus dissuasif que l'incarcération.
Ben là, c'est quoi cette affaire-là? Abolissons les prisons. Non, abolissons les prisons. On va arrêter parce que le simple fait d'avoir tué quelqu'un,
ouais,
en état d'ébriété, tu vis avec l'opprobre de ça. Ben oui, tu vis avec l'opprobre de ça. Tous les criminels vivent avec l'opprobre, c'est-à-dire le fardeau, la notoriété, la connaissance publique du fait qu'ils ont commis un acte criminel qui a causé un décès. Mais c'est quoi l'affaire, là? Ça veut dire que ça, c'est suffisant comme peine. Le juge, lui, qui a donné 18 mois, là, il a entendu les témoignages, il a vu le dossier, il a regardé tout ça en détail, il a entendu les avocats, puis il a décidé que c'est 18 mois. Moi, j'ai confiance au juge, parce que le juge, il a la connaissance, il a une formation juridique, il est nommé par le gouvernement, il est ni d'un bord ni de l'autre, il est parfaitement impartial, parfaitement objectif, puis il décide que c'est 18 mois, puis voici qu'un commissaire d'une commission de libération conditionnelle, lui, il décide que c'est pas 80 % de ça, c'est pas la moitié de ça, c'est 3 mois. Donc, c'est 20 % même pas du délai d'incarcération qui avait été ordonné par le juge. Ouais.
Est-ce qu'on prend en considération la famille de cette jeune femme-là qui a été tuée, puis son désir à cette famille-là d'obtenir justice, là?
Non, mais je pense que ça compte pas. Et de toute façon, dans notre système judiciaire de justice criminelle, Yannick, on accorde... de façon générale, les juges sont portés à dire, les commissaires sont portés à dire, avec toute la sympathie qu'on a pour la victime, puis pour la famille de la victime quand elle est décédée, puis là, on en met, puis là, on met beaucoup d'emphase là-dessus pour dire, on pense à vous, puis on vous comprend, puis tout ça, mais en même temps, on rend une décision qui est totalement inacceptable pour la famille, totalement inacceptable de penser que, en plus de devoir accepter une peine de 18 mois qui est vraiment très, très mineure par rapport aux gestes et par rapport aux conséquences criminelles, bien, tu es obligé d'accepter que là, ça soit juste 3 mois plutôt que 18 ou 15, je pense que c'est 18, hein?
C'est 18 mois, puis là, ben, il a fait 3 mois.
Il a fait 3 mois, donc c'est un sixième. Alors, puis les motifs sont, à mon avis, inacceptables. Moi, je ne peux pas comprendre que la commission des libérations conditionnelles permette ce genre de libération-là. Mais là, c'est dans les nouvelles, c'est dans le journal de ce matin. On le sait parce que c'est dans le journal de ce matin, mais il y a combien de décisions comme ça qui viennent carrément banaliser le geste, banaliser les conséquences et qui viennent banaliser le jugement, en quelque part. Parce que ce jugement-là est quand même une autorité judiciaire. Il n'y a pas eu de contestation. Cet individu-là est condamné à 18 mois de prison. Pas dans une communauté, là, dans prison, dans un établissement, donc dans une prison provinciale. Puis au bout de 3 mois, il s'en sort pour ça. Moi, j'en reviens pas. Je te le jure, là. Puis c'est à mon avis, ce genre de décision-là jette un certain discrédit sur l'ensemble du système. Parce que les gens regardent ça et ils disent, écoute, on a payé des enquêteurs, des policiers, des experts en scène de crime, des avocats, des eubards, la couronne, l'accusation, le juge, le greffier, tout l'appareil judiciaire, on a payé pour ça. Je ne dis pas que parce qu'on paye, on doit avoir nécessairement des peines sévères, mais je dis que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. C'est un système qui coûte des sous, il y a beaucoup d'intervenants, et tu te dis au bout de la ligne, tout ça pour ça. Tout ça pour 3 mois, puis le gars sort, puis bon, évidemment, il y a certaines conditions, là, qu'il ne peut pas prendre de la boisson, puis il ne peut pas ci, puis ça, mais en même temps, écoute, moi je ne comprends pas comment ça se fait que la commission des libérations conditionnelles peut se livrer à ce genre de processus-là, puis banaliser ainsi là, un crime de cette nature-là. Puis pour la famille, ça doit être un deuxième coup quasiment aussi fort que le premier.
Oui, possiblement. Il reste 2 minutes avant de faire une pause, Maître Bellemare. Je veux vous entendre là-dessus. L'ex-chroniqueur Vincent Marissal, qui était devenu député pour Québec solidaire, qui finalement n'ira pas au Parti québécois. On nous a dit qu'il avait négocié avec le Parti québécois, puis en bon français, qu'il avait une job sûre avec le Parti québécois. Et comme ça s'est su, ben vous comprendrez que ça a été très mal perçu par les gens du Parti québécois, ce qui fait en sorte qu'il n'y aurait pas de place pour lui au Parti québécois. Donc, Vincent Marissal est un peu rejeté. Puis, ce que je veux jaser avec vous, parce que vous avez joué la game politique, là, mais dans le cas de Vincent Marissal, il était pour Québec solidaire, il était dans le groupe d'opposition, puis lui, il dit qu'il a été poqué par la job politique. Il dit, de son propre aveu, c'est rough l'opposition parce qu'on est tout le temps en train de critiquer. Ça vient long tous les jours, trouver une ligne dévastatrice pour planter le gouvernement. On commence à 6 heures le matin pour savoir comment on va réagir au gouvernement. Quel pogne on peut faire pour défoncer un ministre? Ce gars-là, il est-tu au courant que la majorité des gens travaillent 40 heures par semaine? Il est-tu au courant de l'aléa d'un gars de la construction qui commence à 6 heures, qui travaille dehors, qui a fret, qui travaille dans l'humidité, qui gèle des pieds, qui gèle des doigts? Lui, il trouve ça rough de trouver une ligne dévastatrice pour planter le gouvernement? C'est-tu vrai, là? C'est-tu vrai, ça, là?
Ben, je trouve que c'est sévère, mais c'est sûr que l'opposition, moi, j'ai jamais été dans l'opposition, j'ai été chanceux, j'ai été élu, j'ai été ministre, j'ai fait un bout là-dedans, puis j'ai fait le tour en l'espace d'un an.
Je vais l'envoyer faire de la toiture, il va savoir c'est quoi travailler pour de vrai, là.
Ben, c'est ça, surtout à moins 27, comme c'est le cas à Québec la nuit dernière. Mais ce que je retiens de Vincent Marissal, c'est que ça a été un bon critique de Québec solidaire en matière de santé. Je le trouvais pertinent. Il a très bien défendu les dossiers des hôpitaux qui tombent en ruine à Montréal, notamment. Député de Rosemont, il faut comprendre qu'il a quand même été élu, il a battu Jean-François Lisée, là, ce qui n'est pas le dernier venu. Il a eu une bonne période en politique. Moi, c'est ce que je retiens de lui. L'histoire là, qu'il a flirté avec le PQ puis que ça n'a pas marché, j'étais très surpris de lire ce matin dans l'actualité qu'il quittait la vie politique. Mais ce que je retiens de lui, c'est somme toute assez positif. Peut-être qu'il aurait pu simplement dire « je quitte » puis « merci, bonjour, merci aux électeurs » puis ça aurait été la même chose, mais c'est sûr que dans l'opposition, tu sais, c'est tous les matins, tu dois trouver un angle d'attaque, mais lui, il avait le dossier de santé. Il avait quand même un des dossiers les plus importants à l'Assemblée nationale. S'il avait été au numérique, il y aurait eu sa clique. S'il avait été à l'éducation, il n'y aurait pas eu d'aussi bon dossier, mais il y avait le dossier de la santé à Québec solidaire.
Mais
donc, il y avait quand même
intéressant. Ouais, je cherche encore un dossier où Vincent Marissal a eu un impact positif, puis qui a changé le monde, qui a changé mon quotidien, qui m'a coûté peut-être moins cher d'impôts. Tu sais, je veux dire, je l'enverrais, moi, travailler dans un CPE avec 20, 40, 60 enfants. Il verrait c'est quoi une job. Là. Trouver une ligne dévastatrice pour mettre le gouvernement dans l'embarras, il trouve ça difficile. Arrête de te plaindre, mon vieux, t'as pris ton chèque. Puis t'aurais été là ou pas, ça aurait pas fait la différence. Fait que pars en paix. Le problème, c'est qu'il ouais. pourrait pas retourner à la presse, parce qu'à la presse, il l'avait sacré dehors, parce que personne qui lisait ses critiques. Ça vient de lui, soit dit en passant. Il l'avait mentionné dans un podcast. La raison pour laquelle on a mis fin à son contrat, c'est que personne lisait Vincent Marissal, ou à peu près pas. Donc, je sais pas. Je lui souhaite un bel avenir, là, mais j'espère qu'il découvrira ce que c'est que la vraie vie des électeurs ordinaires.
Mais là, ça va peut-être venir, parce que si on s'en reparle dans un an, on va voir où ce qui est rendu.
Maître Marc et Bellemare, on fait une courte pause pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. C'est je vais l'avoir. Bellemareavocat.ca.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1 ne cesse d'innover. C'est pour ça que ça fait des années qu'on vous offre des podcasts de contenu original. Réécoutez les grands événements de Québec avec Denis Gravel, relatant des moments marquants de notre ville, ou encore le Roadcast avec Sam Tremblay-Michaud, où les tripeux de char seront servis. Les podcasts originaux de Boulevard 102.1 pour tous les goûts. Santé, musique, sport, actualité. Disponibles sur notre chaîne YouTube, notre application et tous les sites de streaming imaginables. Boulevard 102.1. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Megadeth le 6 mars prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20$, mais aussi de grandes marques. Forfait vert et montures, simple vision 70$ et progressif 150$.
Zoom, zoom, lunettes!
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au Blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Salut, ici Marie-Lou Wolfe. Du 3 au 8 mars, on se donne rendez-vous au kiosque Chevrolet de l'International de l'Auto de Québec. Découvrez pourquoi Chevrolet est numéro 1 en vente de véhicules électriques au Québec en faisant l'essai routier de différents modèles Chevrolet sur place. Moi, je serai là le vendredi 6 mars de 18h à 19h30. À bientôt!
Salut, c'est Marc Dupré. Je vous attends au kiosque GMC le samedi 7 mars de 15h30 à 17h lors de l'International de l'Auto Québec. Venez faire un tour pour découvrir le terrain ainsi que nos camions. Tout ça se passe du 3 au 8 mars au Centre de foire, puis j'ai bien hâte de vous voir.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez lejustepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
Les Jeux du Canada débarquent à Québec en 2027 et on a besoin de toi comme bénévole. Fais ta marque lors d'un événement légendaire qui ne revient qu'une fois par génération dans notre ville. Contribue au succès des Jeux du Canada. Inscription à jeuxducanada2027.ca.
Mécaniciens et électriciens, mettez à vos agendas la soirée porte ouverte à l'aluminerie de Bécancourt le 11 mars.
Hey, depuis le temps qu'on veut travailler à l'abbaye, c'est notre chance. On y va?
Mais hein!
Réservez votre place pour les portes ouvertes de l'abbaye au emploi-abbaye.com.
En avant, Moussaillon! Du 28 février au 8 mars, pour la relâche, montez à bord du Musée de la Civilisation pour une traversée rocambolesque inspirée par l'exposition Titanic, récits et destins. Spectacle, école de matelots, jeux questionnaires, ateliers, bricolage, il y a de tout pour tous les Moussaillons. Vous allez rire, vous émerveiller, apprendre. Des moments à vivre en famille, ensemble, au Musée de la Civilisation. Achetez vos billets sur mcq.org et économisez. Une présentation Hydro-Québec.
Plongez dans la jungle avec Papillon en fête chez
Jardins Amel, une serre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche à vivre en famille. Papillons en fête chez Jardins Amel. Ouvert tous les jours de 8h à 17h30.
Gogone et Dodone se poursuit les 21 et 22 février et pendant la relâche du 28 février au 8 mars. Venez en profiter en famille. Grimpez l'ours d'escalade propulsé par Weekend, dévalez la glissade de 150 pieds présentée par Pomme, jouez au grand mini-golf, au baby-foot géant, initiez-vous au fat bike et tellement plus. On vous garantit du plaisir et beaucoup de rire. Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, vous attend au quai de l'Espace 400 à la plage hivernale Gogone et Dodone.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca, ex-ministre de la Justice, un spécialiste de la SAAC, l'IVAC, de la CNSST, est avec nous à chaque lundi. Maître Bellemare, avez-vous écouté Tout le monde en parle hier?
Eh oui, c'est à gauche, hein, tout le monde en parle. Hein. C'est à gauche. Hein.
Oui, bien, Christine Fréchette a le vent dans les voiles. Elle n'a pas été trop maganée pendant son entrevue hier.
C'est le choix de Guilla.
Oui, ça va faire une bonne première ministre pour le temps qui va lui rester. Là. C'est une bonne communicatrice, elle semble être travaillante. Le seul bout, moi, où ça l'a accroché un peu dans ma tête, là, puis c'est peut-être mon biais par rapport à Guilla Lepage, là, mais c'est quand on lui a dit...
Mais c'est quoi, vous allez gouverner au sondage?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un politicien exécute ce que le peuple demande? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
C'est comme quand on dit c'est une mesure populiste.
Ouais.
Oui. Une mesure populiste, moi je suis d'accord avec ça. Puis si tu regardes le sens du mot populiste, ça veut dire qu'il est relatif au peuple.
Exact.
Je veux dire, c'est quoi là? On méprise l'électorat. On méprise les gens ordinaires, alors qu'on dit une personne, un vote dans notre démocratie, tout le monde a le droit de voter, tout le monde a de l'allure, puis le peuple est souverain, puis après les élections, on paye des impôts, puis on subit des lois que ce gouvernement-là va adopter, donc on a le droit de le choisir une fois par quatre ans, de mettre un petit X. Alors, moi, je trouve qu'il y a un mépris de la population qu'on retrouve beaucoup.
À tout le monde en parle. Entièrement d'accord. Puis, Tipoil, René Lévesque avait déjà dit cette phrase que je retiens tout le temps. « Méfiez-vous des gens qui prétendent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. » On dirait qu'il parlait à Guilla Lepage plusieurs années plus tard. Guilla Lepage a un mépris profond pour ce que la majorité des gens désirent. Puis, soit dit en passant, je pense qu'un politicien, des fois, doit aller à l'encontre de sa population s'il considère que c'est pour le bien de sa population. Margaret Thatcher, ça a été ça, Maître Bellemare. Elle a pris des décisions pour redresser les finances publiques. C'était à l'encontre de son équipe, c'était à l'encontre des demandes de son peuple. Mais elle a réussi à sortir le Royaume-Uni de la merde à l'époque parce qu'elle a fait à sa tête. Puis, au niveau finance, elle a redressé les finances. Puis aujourd'hui, on la remercie, Madame Thatcher. Mais parfois, quand le peuple demande quelque chose, il faut lui donner.
Oui, puis tu sais, je regarde, tu sais, on disait que Pierre Poilievre avait présenté son parti, puis son aspirant gouvernement à partir de slogans, puis tout ça, mais il reste que les slogans étaient fondés sur des mesures populaires.
Ben oui.
Quand tu parles du logement, puis quand tu parles d'une famille monoparentale, qui n'est pas capable de se loger, puis d'un petit couple qui vient de vivre ensemble, d'avoir un bébé, qui est pas capable de se trouver un condo ou une maison, comme nous autres, on a eu la chance de le faire il y a 25, 30, 40 ans. Mais je pense qu'il parle au peuple. Mais il y a effectivement un mépris ambiant chez une certaine intelligentsia là, qu'on retrouve beaucoup à Radio-Canada, qui eux ont eu 150 millions de Mark Carney, fait qu'ils n'ont pas trop de problèmes par rapport aux radios privées, là. Il y a un nom du bacon, alors ils peuvent nous faire la morale en masse. Et c'est ce qu'on avait tout le monde en parler hier.
Maître Bellemare, je vous souhaite de passer une super de belle semaine. On se reparle lundi soir prochain pour un autre épisode de Marceau Soir.
Parfait. Bonne semaine et attention, habillez-vous chaudement.
Oh oui, c'est pas fini, mais le printemps s'en vient. Là. Voyez-vous, mercredi, ça va être la plus belle journée de la semaine. Là. Entre 5 et 10 degrés d'annoncé avec plein soleil là, pour l'est du Québec. C'est le fun, on va en profiter.
Yes.
Marc, pour rejoindre Maître Marc Bellemare, c'est bellemareavocat.ca, des dossiers de SAC, des VAC, de CRSST. Bonne soirée à tout le monde et on se reparle demain à la même heure. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20 $, mais aussi de grandes marques. Forfait vert et monture, simple vision 70 $ et progressif 150 $.
Zoom, zoom, lunettes!
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes.
On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Playojo!
Chérie, oublie les lasagnes! Faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
Duproprio à